Alimentation, la guerre du local. Un débat proposé par Alter Echo, une publication de l'agence Alter, en collaboration avec Bruxelles nous appartient et avec le soutien de la Loterie Nationale. D'un côté, un monde plus que jamais globalisé, mu par une mise en concurrence mondiale et confronté à des défis planétaires. De l'autre, des territoires, des régions, des États, des associations, des citoyens qui misent sur un tour au local. Pour des enjeux comme l'économie, le climat, la démocratie, la santé et, bien sûr, l'alimentation. Dans ce contexte, on a vu apparaître depuis quelques temps des coopératives misant sur le retour à une alimentation paysanne, locale, et qui ont parfois rencontré un grand succès. Surfant sur cette vague, la grande distribution s'est également lancée dans la vente de produits dits « locaux ». Mais de quel local parle-t-on? Et celui qu'on trouve dans les grandes surfaces est-il comparable à celui prôné par les coopératives de toutes sortes actives dans le domaine? À la suite du dossier intitulé « Le local rebatte les cartes », paru dans notre magazine Alter Echo en février 2023, et qui contenait un article consacré à cette question, nous vous proposons de revenir sur le sujet en compagnie de Benoît Dave, qui est co-directeur de Paysans Artisans, une coopérative de producteurs et de consommateurs de la région namuroise. Paysans Artisans fait partie du collectif 5C, qui fédère une quarantaine de coopératives citoyennes. Et Benoît Dave le représente aujourd'hui en tant qu'administrateur. Et alors nous avons aussi Petro Zida, qui est professeur de marketing et de management à la faculté des sciences économiques, sociales et gestion de l'Université de Namur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pour commencer, peut-être Petro Zida, je pense que cet intérêt pour le local de la part de la grande distribution, mais aussi des consommateurs, n'allait pas de soi. Quand on s'était parlé, vous m'avez dit qu'il y a 20 ans, c'était peut-être quelque chose de compliqué. Expliquez-nous un petit peu.
C'est relativement compliqué parce que le modèle de la grande distribution est un modèle qui est relativement très bien façonné, qui nécessite des approvisionnements réguliers, qui nécessite énormément de participation de la part des producteurs sur, par exemple, le packaging, sur la manière avec laquelle les produits sont présentés, sur les informations que l'on trouve sur le produit, etc., etc. Et donc la grande distribution est relativement fermée à des initiatives qui pourraient faire que son système d'approvisionnement soit en quelque sorte bloqué par des choses qui ne sont pas habituelles. Donc en fait, dans l'article, j'avais indiqué qu'il y avait une certaine forme d'antinomie entre le modèle de la grande distribution et ce qu'on appelle la localité, parce que tout simplement, c'est incompatible. À moins que les distributeurs acceptent cette variance dans les approvisionnements et qui va se répercuter, par exemple, sur moins d'efficience et donc des prix plus élevés. Et comme tout le monde se bat pour avoir les prix les plus faibles, quelque part, c'est la preuve par l'absurde que le modèle est totalement incompatible. Alors certains distributeurs s'y tentent malgré tout, en proposant des produits qui sont locaux et en acceptant toutes les difficultés, entre guillemets, difficultés pas au sens de paysans artisans, mais difficultés au sens de la grande distribution, avec des prix plus élevés. Mais on le sent... Ça se retrouve alors dans les indicateurs de prix, par exemple celui de test achat, où on retrouve ces produits qui font augmenter en quelque sorte le panier moyen. Et ça se retourne contre le distributeur qui ensuite va mettre la pression sur le petit producteur pour diminuer les prix. Donc quelque part, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ils le font tous.
Alors, ils le font. En même temps, vous dites que c'est antinomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le local qu'on retrouve finalement dans la grande distribution, ce n'est pas du local, ou alors c'est du local d'un certain type, ou alors celui qui est présenté est extrêmement marginal par rapport à l'ensemble de ce qu'on peut trouver finalement dans les grands magasins.
Alors d'une manière, donc vous avez vu que de nombreux distributeurs parlent de local comme un vecteur de durabilité. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt utiliser le bio, ou d'autres qui vont utiliser tout ce qui est économie responsable et sociale, etc. Ça reste marginal. Ça reste marginal en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de produits sur l'ensemble. Et puis, le local, ce n'est pas uniquement la distance. Le local, ce sont différentes formes de proximité. Proximité de valeur, proximité bien entendu géographique, proximité organisationnelle. Et donc, quand la grande distribution pense local, c'est juste l'agriculteur ou l'entreprise du coin. C'est tout, quelle que soit la manière avec laquelle les produits sont réalisés. Et donc c'est un peu ce que je disais dans l'article, si vous avez un producteur qui est dans les limites acceptables d'une enseigne, mais qui tape sur ses employés, qui utilise des pesticides et qui n'en a que faire de la durabilité, pour la grande distribution c'est du local, pour paysans artisans ce ne sera pas du local. Donc en fait tout dépend de la définition que l'on a du local, et quand on regarde, quand on creuse, maintenant la grande distribution met des chartes en place pour faire en sorte d'apparaître encore plus responsable, on se rend compte compte, quand on creuse un peu, que ces chartes ne sont pas extrêmement contraignantes, au sens où des vraies coopératives pourraient l'être. Et donc, on tourne toujours sur ces effets d'annonce, sur ces images, etc. Et puis, ces grandes pubs que Carrefour lance, sans vouloir citer de nom en particulier, sur le local, c'est chez Carrefour. Quoi. Ouais. Mais ça fait longtemps. Une enseigne comme Louis Deleuze et Secora, mais qui n'avait que 7 magasins sur toute la Belgique, faisaient vraiment, entre guillemets, une forme de local. Mais ils étaient des ovnis par rapport à la grande distribution. Et ils continuent à le faire, en privilégiant par exemple des beurres de fermes avoisinantes, etc. Ils savent que ce beurre-là ne va pas se retrouver dans un magasin, mais pas dans l'autre. Ils ont intégré ça. Leur chiffre d'affaires devient de plus en plus faible, pas à cause de ça, bien entendu, mais c'est difficile d'être concurrentiel sur les prix quand on veut faire du local.
Une dernière question avant de passer à M. Dave, parce que j'aimerais lui poser la même question. Ce qu'on a vu aussi, me semble-t-il, c'est qu'avec cette tendance du local, alors effectivement, on pourra encore discuter ensemble de quel local on parle, certaines enseignes de grande distribution ont en quelque sorte rebrandé leurs produits belges, du conventionnel, en disant « Regardez, c'est du local », mais bon, en fait, c'était des produits qui étaient déjà présents avant, il y a juste eu une forme de nouveau packaging qu'on a mis autour.
L'idée, c'est de surfer sur cette vague. Hein. Le Covid a été une espèce de catalyseur. Ça a amené les gens à réfléchir un tout petit peu à l'origine des produits. Hein. Et ça n'est pas l'alimentaire qui a changé les mentalités. Les mentalités sont déjà revenues à leur état initial. Mais c'est le fait qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Et on se rendait compte que tout était produit à l'extérieur. Et donc, il y a eu une espèce de sursaut en se disant, mais non, d'une pipe, privilégions les produits de chez nous. Et donc, les grandes surfaces ont été à 300% là-dessus. Vous savez, en France, on n'utilise même plus le mot local. On utilise le mot terroir. Parce que le mot terroir, ça veut dire une certaine forme de localité dans l'espace. C'est que quelque part, c'est un endroit géographique qui est privilégié pour produire un produit particulier. Par exemple, du lait qui va venir de Normandie, qui est vendu à Toulouse. C'est pas local. Au sens de du local que l'on entend. Et donc, c'est juste, quand j'ai parlé de rebranding, c'est juste une manière de communiquer sur des valeurs qui sont chères aux consommateurs. Mais on sait très bien, le consommateur n'a qu'à demander d'où viennent les produits, quelle est la part de ces produits sur le chiffre d'affaires. Et ils se rendront compte qu'en réalité, ce sont des effets d'annonce.
Monsieur Dave, ça vous inspire quoi ? Et enfin, alors j'ai envie de vous poser la question. Finalement, pour vous, le local, c'est quoi ? Ça peut paraître idiot comme question. Et qu'est-ce que vous inspire finalement ce mouvement de la grande distribution, en tout cas d'un point de vue communicationnel sur le local entre guillemets ?
Local. Donc on n'utilise jamais ce mot-là, qui a des connotations nationalistes qu'on n'aime pas. Donc on utilise davantage circuit court. Et dans circuit court, c'est ce qui est important pour nous, c'est la mise en relation du producteur et du consommateur qui grandissent en intelligence en se parlant. Le consommateur réapprend le produit, à savoir comment c'est fait, qui le produit, dans quelles conditions et quel process. Et le producteur, en parlant avec le consommateur, entend ses craintes, ses attentes, etc. Donc on n'est pas sur le local, on n'est pas à planter des petits drapeaux belges sur les steaks de blanc-bleu qui étaient déjà là avant, mais on a juste mis un petit drapeau belge dans les étals de la grande distribution. Donc voilà, donc on n'est pas sur le local, mais en circuit court, donc ce qu'on défend comme valeur, c'est revenir à une production plus respectueuse de l'environnement, sans pour autant être strictement bio, mais quand même il faut au niveau de la chemisation rétropédalée. Deuxième chose, c'est au niveau des producteurs et de la production, revenir à une production où le producteur a de l'autonomie et développe un savoir-faire complexe dont il peut être fier après une journée fatigante en fin de journée. On a presque plus de bouchers. Il faut que des bouchers soient de nouveau formés et aient envie de faire ce métier. Aujourd'hui, chez Renmans, dans un atelier de 2000 personnes, les gens sont hyper spécialisés et il y en a qui font l'épaule gauche du mouton toute la journée. C'est magnifique. En fin de journée, je ne suis pas sûr qu'ils sont fiers de leur taf. Donc, il faut reconstruire des métiers. Même chose en agriculture. Aujourd'hui, qui définit les process, c'est les vendeurs d'intrants. Vendeurs d'intrants, c'est très concentré. Hein, donc, c'est Richard Brownbone. l'un ou l'autre en plus, mais c'est très concentré. Et l'agriculteur perd beaucoup de son autonomie et de son savoir-faire, puisqu'on lui donne la recette. Donc refaire des métiers qui ont du sens, dont on peut être fier, et c'est vrai dans la distribution aussi. Ou dans la grande distribution, les métiers sont extrêmement morcelés. Dans un petit magasin, on a quelqu'un qui accueille le client, qui fait du réassort, qui fait de la commande, qui fait de la déco, et qui est fier de son taf. C'est bien une société, on est fier de ce qu'on vit, la vie est courte. Voilà. Donc le circuit court, c'est pas uniquement la proximité. C'est forcément, à partir du moment où on est sur des producteurs de petite taille, des artisans, ils sont pas orientés export, a priori. Sauf s'ils ont une production extrêmement spécifique. Nos amis siciliens, donc on achète en Sicile des agrumes. Ils n'ont pas grand-chose d'autre à vendre que leurs agrumes, et forcément, chez nous, on en demande. Et on est plutôt favorable à ce qu'on mange des oranges, surtout des bonnes oranges, avec une grande variété de d'agrumes de toutes sortes. Donc, voilà.
Mais donc, alors, merci, c'est très clair. J'ai envie de vous dire, finalement, ici, vous avez défini ce qu'était pour vous le circuit court, on l'a bien compris. J'imagine, quel regard vous portez alors sur ce positionnement, on va dire, de la grande distribution là-dessus. Est-ce que vous dites qu'ils tentent de nous imiter, ils font du rebranding, qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, est-ce que c'est un vrai positionnement ou c'est juste un effet de com? Je parierais plutôt sur l'effet de com, qui est d'ailleurs déjà passé.
Ça, on y reviendra, effectivement.
Donc, toute cette com sur le... Alors là, le local, donc il surfe sur une vague nationaliste qui est quand même qui commence à sentir mauvais, et c'est éteinte ici en août-septembre, quand l'Ukraine est arrivée et l'inflation est arrivée. Là, on est revenu avec la chanson habituelle, les petits prix, toujours les petits prix. Donc ça, cette vague-là est déjà un petit peu éteinte. Alors la grande distribution a enquillé de fait sur ce message-là, surtout Carrefour, les autres ont un peu suivi. Pas forcément parce qu'ils y croient, pas forcément pour faire du chiffre, simplement pour répondre à une inquiétude et une attente du citoyen ou du consommateur. Mais c'est juste de l'emballage, de l'emballage idéologique. Ils savent bien qu'ils ne vont pas faire beaucoup de chiffres là-dessus. En plus, chez Carrefour, ils ont accepté, après un premier essai infructueux il y a quelques années, les prix des producteurs. Donc, ils ont accepté de payer plus cher et d'abattre leur marge. C'est de la com. Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, que ce truc circuit court, ce soit sur le budget de la com et pas sur le reste du budget.
Vous évoquez le fait, effectivement, alors on parle beaucoup de Carrefour. C'est vrai que Carrefour a une charte, en fait, pour ses produits locaux. On a vu, je pense que c'est 40 km autour du magasin, ça permet au magasin d'aller chercher des produits qui se situent autour des magasins. Il y a effectivement aussi le prix juste. Je pense qu'il n'impose pas de quotas de production, finalement. Donc finalement, on peut se dire, d'une certaine manière, en tout cas là-dessus, ils utilisent des arguments, en tout cas une charte qui peut se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans certaines coopératives. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que c'est une volonté réelle, peut-être sur un petit pourcentage de leurs produits, de faire entre guillemets du vrai circuit court ou du vrai local, ou bien comment est-ce que vous voyez ça, Monsieur Zidane?
Tout d'abord, il y a un point qui est, je pense, important, que la grande distribution cessée au local, au sens que paysans artisans le voient. J'y vois quand même quelque chose de très positif. Dans la mesure où toutes les enseignes, aujourd'hui, comme la plupart des entreprises, se lancent dans des grands programmes de responsabilité sociale des entreprises, où ils ont intégré, en quelque sorte, ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement, qui respecte des valeurs fondamentales, le respect, etc., etc. Donc, quelque part, on pourrait s'en réjouir, c'est positif. Là où je suis complètement d'accord avec M. Dave, c'est que, justement, à partir du moment où ça va devenir un effet de communication, et que derrière, ça n'est pas très sérieux en termes d'application, alors on peut penser à ce qu'on appelle des phénomènes de greenwashing, où on utilise en quelque sorte un argument qui au départ ne devrait même pas être connu des consommateurs, mais comme argument de vente. Logiquement, Colruyt par exemple a très bien compris qu'ils devaient arrêter de commencer à nous casser les pieds avec leurs éoliennes il y a 15 ans, qu'ils n'arrêtaient pas de parler de ça, mais le consommateur s'en fichait. Ils ne comprenaient pas le lien qu'il y avait entre l'éolienne et le prix qui était payé. Donc ils ont arrêté, ils l'ont fait de manière très sincère. Mais eux, leur objectif, c'était diminuer les prix, tout simplement. Donc je trouve que c'est finalement très positif. Et donc votre question sur est-ce que tout ça, c'est juste des effets d'annonce? Est-ce que ça va se stabiliser dans le temps? Est-ce que le consommateur, comment le consommateur peut-il s'y retrouver? Eh bien, à nouveau, il surfe sur, par exemple, une nouvelle vague. Avant, la marque, dans les années 60, la marque était un vecteur de qualité. On se référait à une marque, le consommateur se référait à une marque pour choisir, parce que c'était son élément principal. Ensuite, il y a eu la crise dans les années 70, le choc pétrolier, et les prix ont commencé en quelque sorte à s'envoler. Le consommateur s'est rendu compte que la marque n'était plus en quelque sorte suffisante pour avoir confiance. Et donc, on a vu apparaître dans les années 70 des marques de distributeurs qui cassaient un peu les codes, pas de publicité, etc. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est, et ça je suis entièrement d'accord avec vous, c'est ce côté un peu national. Et donc, on voit que beaucoup d'enseignes surfent là-dessus, en disant, chez nous, ce sont des produits belges. Mais on ne va pas plus loin. Est-ce qu'on respecte le producteur? Est-ce qu'il y a vraiment cette relation avec le producteur? Est-ce que derrière, il y a vraiment un travail de fond qui est réalisé? On sait bien que non. Et on sait bien que produire des tomates dans des serres chauffées tout l'hiver pour arriver avec des tomates totalement insipides, c'est tout sauf respectueux de l'environnement. Et pourtant, ça fait partie de cette communication qui dit, regardez, tous nos légumes viennent de producteurs belges. Et quand vous voyez que dans certains produits, notamment certains légumes, vous ne voyez aucune trace de terre, vous pouvez vous imaginer, on les connaît, les modes de production, avec une goutte toutes les X minutes sur des espèces de palissades, ces légumes n'ont jamais vu la terre. Et donc, le consommateur n'est pas aujourd'hui encore suffisamment informé. Et comme nous sommes dans une période où, et ça, il faut lui rendre ça au consommateur. C'est lui qui choisit. Donc, à la limite, on pourrait dire que c'est le consommateur qui est responsable de tout ça. Il n'est pas obligé d'aller dans la grande distribution. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est très difficile de joindre les deux bouts. Avec les croissances de prix de l'ordre de 30% dans certaines catégories, 50% dans d'autres catégories, c'est vraiment difficile. Et donc, le consommateur est face à un dilemme. Soit je continue à aller dans des enseignes en circuit court où je vais respecter le producteur, où les prix sont naturellement plus élevés, parce qu'on respecte et quelque part on intègre tous les coûts environnementaux et sociaux dedans, ou alors je regarde aussi mon portefeuille. Donc la plupart des clients aujourd'hui essaient de faire un mix entre respecter leurs valeurs et aller chez des producteurs, petits producteurs, paysans, artisans ou d'autres. Et d'un autre côté, on continue à acheter en grande surface parce que c'est moins cher et qu'on doit tenir compte de cela. Et donc le consommateur n'est pas dans une situation simple. Ça, il faut en être conscient. Et donc le distributeur, je termine avec ça, le distributeur va essayer de réduire toutes les contraintes que pourrait avoir le client. Et donc, le message, c'est venez chez nous, parce qu'il y a du local aussi. Mais une fois que vous êtes chez nous, vous achetez aussi les produits de la grande distribution, des grands groupes agroalimentaires. Parce qu'une fois que vous êtes sur place, vous vous dites, je ne vais pas reprendre ma voiture pour aller ailleurs. Et le tour est joué. 70% des décisions des consommateurs, en moyenne, se font en magasin, même si vous avez prévu des listes. Donc, une fois que vous avez le pied en magasin, le distributeur peut en quelque sorte influencer 70% de vos achats. C'est énorme.
On évoque la question du prix. Et c'est vrai qu'on évoquait notamment, avant le débat, le boom qu'il y a pu y avoir sur le circuit court et sur le local, selon sa définition, durant la période du Covid. Vous évoquiez le fait que c'est déjà en train de retomber. Et c'est vrai qu'on peut voir que, notamment dans la grande distribution, maintenant, l'attention, c'est de nouveau le prix, me semble-t-il. La question du prix, comment est-ce que vous l'envisagez du côté de Paysans Artisans, mais aussi du collectif 5C? Mmh. Et comment est-ce que vous positionnez par rapport effectivement, potentiellement aux difficultés que peut avoir cet aménage à joindre les deux bouts? Est-ce que c'est une barrière pour certains pour pouvoir se fournir en coopérative ou pas?
Bon, la question du prix, d'abord en grande distribution, c'est paradoxal. Ils communiquent de plus en plus depuis 7 ans, ils ont repris leur rengaine sur le prix. En même temps, ils ont augmenté leurs fruits et leurs légumes beaucoup plus que de chez nous. Parce que dans nos coopératives, on vend d'abord des légumes de saison de la région. On a fixé les prix avec nos producteurs. Il y a une petite augmentation, mais certainement pas de cet ordre-là. Et donc, il y a un paradoxe. Même quand ils communiquent sur le prix, la grande distribution nous roule dans la farine. Donc, il faut arrêter de croire en leur message lénifiant, il faut fermer tout ça, il faut oublier ça. Et je pense que de plus en plus, le consommateur sait qu'il doit se méfier de ça. Même s'il est bombardé, alors il est bombardé de fait, donc ça passe. Hein. Mais il y a des anticorps qui sont en train de se mettre de plus en plus, où les gens se disent, non, ça, on sait qu'on nous roule dans la farine. Et donc l'enjeu, c'est de faire passer un message alternatif par rapport à ça, qui est de dire, alors, vous dites qu'il y a un problème dans les ménages au niveau du prix d'achat et du pouvoir d'achat. Alors c'est vrai qu'il y a une proportion croissante de la population qui est paupérisée. Il y a notre système qui produit ces inégalités de plus en plus fortes. Mais là, on parle peut-être de 15% de la population qui sert. Alors, pour les autres, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a toute une classe moyenne qui a des budgets et qui fait des choix de ses budgets, dans son budget. La part dévolue à l'alimentation n'a fait que baisser depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on parle entre 12 et 13% du budget moyen familial sur l'alimentation. Et donc ça, c'est vraiment peu. Et donc il y a moyen peut-être de faire d'autres choix, de faire... Les loyers ont explosé. Mmh. Hein? Donc peut-être qu'il y a moyen de faire d'autres choix ou que les pouvoirs publics arbitrent entre ces choix et notamment, je pense, aux loyers. D'autre part, au niveau de l'alimentation elle-même, il y a des achats qui se font en produits transformés, hyper transformés, et on cuisine de moins en moins en famille. Si on cuisine, on peut réduire fortement le coût, et peut-être être aussi fier de ce qu'on produit, de ce qu'on cuisine. On peut diminuer la part de viande dans l'assiette, qui est quand même la partie du repas la plus coûteuse. Et la santé s'en portera mieux. Donc il y a des choix. Je pense que de dire le budget des ménages et coince tout, c'est pas vrai. C'est comment on alloue ce budget sur les différents secteurs de consommation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de la population qui est paupérisée, et ça, il faut pouvoir en parler aussi. Aujourd'hui, on a organisé, la distribution à cette population des déchets de la grande distribution. Donc, des produits qui sont arrivés en limite DLC, etc. Je pense qu'il faut trouver un autre système. Ce n'est pas un système digne où on distribue sans demander aux gens ce qu'ils ont envie de manger, des colis qui sont des produits déjà de mauvaise qualité quand ils sont à DLC normal et qui sont limite quand ils arrivent en bout de DLC.
Vous parlez des colis alimentaires.
Des colis alimentaires. Mmh. Donc ça, il faut peut-être revoir ça. Ce n'est peut-être pas une bonne solution très digne à ce niveau-là. Donc voilà.
Alors, vous évoquez, donc merci, toujours cette question du prix, vous évoquez le fait que, selon vous, les prix, notamment enfin, des fruits et légumes dans la grande distribution, ont quand même augmenté plus fortement que du côté des coopératives. Depuis les fêtes 2022, Collectif 5C a quand même a lancé une campagne de pub, notamment pour essayer de je parle sous votre contrôle, mais de vous démarquer finalement de la grande distribution, oui. Et montrer quelles sont vos différences. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les coopératives communiquent aussi sur le prix, comme la grande distribution a communiqué sur le circuit court ou sur le local, ou bien c'est totalement antinomique avec votre philosophie?
Alors, on communique sur le prix en disant on essaie d'avoir un prix juste pour rémunérer correctement le producteur, et on essaye d'avoir un prix juste pour le consommateur en écrasant nos marges et sans distribuer de dividendes au capital. Donc voilà, alors, mais on ne communique pas sur le petit prix, on communique sur le prix juste. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose, et on ne veut pas faire cette course-là, qui est une course infernale ou à la médiocrité. Donc plus tu te bats sur un petit prix, plus ton produit va être médiocre. Et il y a une pression de la grande distribution sur les producteurs, sur les fabricants, sur les transformateurs, en leur disant, tu me fais un produit de marque Carrefour ou Colruyt ou quoi, je m'en fous, c'est 10% moins cher que le machin, ça va être... Mais tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes du sucre, voilà. On est avec une course à la médiocrité. Et il faut se rendre compte de ça. Donc, refaisons plutôt une course à la qualité, à la diversité, et avec une transparence sur la façon dont c'est produit. Et c'est ça le circuit court. Nous, on emmène dans les fermes, dans les ateliers, nos consommateurs, on leur propose continuellement des visites, des débats, des trucs. Et c'est de l'intelligence qu'il faut, et de la reprise de contrôle qu'il faut essayer d'avoir. Et ça, c'est l'inverse de ce qui est produit par la communication de la grande distribution ou de l'agro-industrie, qui envoie des messages complètement lénifiants, sans contenu, qui essayent de respirer l'air du temps pour que les gens s'associent au produit. Mais il n'y a aucune info. C'est sans intérêt. Alors, voilà, arrêtons avec ce truc.
Monsieur Zida, sur la communication, on évoque la communication fait des coopératives. Vous êtes notamment prof de marketing. Comment est-ce que vous, quel regard est-ce que vous jetez peut-être sur la manière dont les coopératives se positionnent à l'heure actuelle? Est-ce que vous vous dites ils pourraient faire autrement, ou je sais pas.
Mais c'est tout le danger d'utiliser un argument dans lequel on n'est pas bon au sens. Au sens où le consommateur peut l'entendre. La grande distribution va dire « nous sommes moins chers ». Et ça se vérifie très facilement. Il suffit de comparer les produits d'une même marque et on compare. Une coopérative va dire « ben voilà, nous, ce sont des prix justes ». Eh bien, elle est obligée de justifier, obligée d'expliquer. Elle est obligée d'expliquer en quelque sorte au consommateur. Et quand on commence à expliquer au consommateur, le consommateur s'y perd. Puisqu'en marketing, on sait que le message doit être très court. Mmh. Et donc, c'est un combat qui est, je ne vais pas dire perdu, mais c'est un combat qui est difficile à mener parce que les coopératives et tout le circuit qui est finalement social a besoin d'expliquer, a besoin d'éduquer. Et ça prend un temps dingue. Et on l'a vu, ça a fonctionné. Certaines coopératives ont fait plus 30% pendant le Covid, et l'année suivante on avait fait une étude pour l'UCM pour voir si les comportements des consommateurs, le temps que ça allait mettre pour revenir à la normale, il n'a pas fallu un an pour que les consommateurs reviennent à la normale. Le consommateur est une forme d'animal qui réduit ses efforts. Et donc tout à l'heure, M. Dave parlait de changer ses habitudes alimentaires. Le consommateur déteste le changement. La grande distribution l'a très bien compris. C'est ce qu'on appelle des achats routiniers. Vous rentrez dans le magasin, vous savez où sont les produits, vous limitez le temps que vous allez passer dans le magasin. C'est ça que le modèle de l'hypermarché n'est plus un modèle qui fonctionne bien, parce qu'il vous faut 2 heures pour faire vos courses. Et vous n'avez pas besoin d'un tel assortiment. Vous n'avez pas besoin, quand vous allez acheter, vos kiwis, d'acheter des slips en même temps. Donc ça, le consommateur, il veut plus ça. Et donc, il y a une perte de vitesse de ces grandes surfaces. Donc, communiquer sur le prix est vraiment complexe pour ceux qui ont un prix qui est juste. Donc, il faut expliquer, il faut éduquer, il faut des espaces où on peut le faire. Ça prend plus de temps, mais par contre, les parts de marché sont stables. Parce qu'une fois que vous avez convaincu un client que le prix qu'il paye n'est pas simplement une marge que va réaliser le vendeur, mais qui correspond en quelque sorte au respect du producteur, à des processus de production, à une forme de durabilité, eh bien, il le paye avec plus grand plaisir. Et donc ça, c'est vraiment important. Enchanter le client est vraiment une chose que vous faites hein, parfaitement, en offrant des services qui n'ont plus rien à voir en fait, avec la vente. Rencontrer un producteur, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour un consommateur. Et il sera d'autant plus fier d'acheter les produits qu'il connaît le producteur et qu'il connaît d'où ça vient et qu'il connaît comment c'est produit, etc. etc. Donc, parler d'une variable qui est le prix, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que alors, vous mettez en avant un élément sur lequel que vous ne maîtrisez pas. Et ensuite, c'est la grande distribution aussi. Si vous dites que si vous communiquez sur le prix, ça veut dire que vous considérez que le prix est important dans le processus d'achat. Et donc, la grande distribution va arriver avec des prix moindres. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous aurez fait en communiquant sur le prix? Vous avez monté dans l'inconscience du client que le prix était le critère de choix numéro un. Et donc, c'est toute la complexité de parler du prix. Mais il faut en parler. L'organisme ou l'institution ou l'entreprise, je ne sais pas comment il faut l'appeler, que j'aide un tout petit peu, c'est une grande question. Doit-on parler du prix? Et si on parle du prix, on doit en parler comment? Mais quand on fait des comparatifs de prix, on se rend compte que tel, par exemple, beurre de ferme ou tel yaourt de tel agriculteur, s'il est comparé au même yaourt dans la grande distribution, c'est le même prix. Ils ne sont pas plus chers. Parce que la qualité, c'est la qualité. Et donc, il faudrait amener le client à se rendre compte qu'il n'a pas d'intérêt pour ce type de produit à les acheter en grande surface. Il peut directement les acheter dans des coopératives, dans ce type de magasin, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et que finalement, on respecte plus le producteur. C'est une variable extrêmement difficile et qui a un impact gigantesque.
Vous évoquez le fait que, enfin, deux choses. Vous disiez que d'un côté, que en tout cas, quand on communique sur les valeurs, sur le processus, en général, c'est une part de marché qui est plus stable parce qu'une fois que le consommateur est convaincu, il va venir. D'un autre côté, vous évoquiez le fait que durant la période du Covid, il y a eu une augmentation, notamment de la clientèle des coopératives, et puis qu'on est revenu à la normale. Est-ce que c'est pas un peu antinomique? Je veux dire, et alors ma question, c'est qu'est-ce qui fait que ces gens qui, à un moment donné, sont tournés peut-être vers les coopératives durant le Covid, en fait, in fine, une fois que la situation est redevenue normale, sont en partie retournés dans la grande distribution?
Minimisation de l'effort. Ouais. Le télétravail a diminué, c'était ça aussi qui faisait la force, le télétravail, et donc on avait le temps, on perdait plus le temps dans les transports en commun ou à prendre sa voiture, et donc on allait accompagner ses enfants à l'école, et puis on passait chez l'agriculteur du coin, pour ceux qui pouvaient le faire, qui habitent à la campagne, et ça a changé, parce qu'aujourd'hui les entreprises, alors qu'avant elles permettaient 4 jours de télétravail par semaine, aujourd'hui elles limitent à 1, voire 2 jours de télétravail, donc c'est un peu plus compliqué. Et tous les membres de la famille, on le voit dans les études, tous les membres de la famille ont récupéré en quelque sorte leurs habitudes. Il faut aller accompagner les enfants à tel endroit. Et donc, tout ça est compliqué. Et on est revenu à une forme de normalité. Alors, là où je voudrais insister par rapport, et peut-être je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit, le consommateur est conscient que quand il achète en grande surface, il favorise l'agro-industrie, il favorise les mauvais produits, il le sait. Il le sait. Mais pour lui, eh bien, c'est un compromis qu'il doit faire entre toute une série de choses. Donc manger moins de viande, c'est une possibilité, même s'il n'aime pas manger moins de viande. Boire moins ceci ou agir, il le fait, mais pas de manière aussi radicale que l'on souhaiterait. Donc pour le consommateur, c'est compliqué de changer ses habitudes. Ça c'est un fait. Alors pour le reste, je ne sais pas comment cela va évoluer, mais aujourd'hui on est plus ou moins revenu, on parle de 5% qui reste quelque chose de supérieur par rapport à avant, mais on est revenu à une forme de normalité. Alors là où je voudrais insister, c'est sur l'image qu'ont les consommateurs de la grande distribution. On a fait une étude avec des étudiants et la question était très simple: est-ce que les grandes surfaces sont crédibles lorsqu'elles disent qu'elles font du durable? Et donc on a travaillé sur 3 échantillons de 150 ménages, chacun à peu de choses près, et on, donc tout ce qui était fair trade, bio et local. Et la conclusion était, était incroyable. Oui, oui, les clients de Deleuze font confiance à Deleuze, les clients de Colruyt font confiance à Colruyt quand Colruyt dit qu'ils font du local. Et ça, c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont retournés au prix, parce que pendant 4 ou 5 ans, ils ont martelé qu'eux aussi ils faisaient du durable, du local, du ceci et du cela, avec par exemple des rayons vrac à l'entrée, avec... avec un étiquetage très spécifique sur l'origine des produits, par exemple. Mais à nouveau, c'est peut-être...
Les produits qu'ils avaient déjà en magasin.
Exactement. Hein, quand je vous avais parlé de rebranding, c'était ça. C'est comment, avec ce que j'ai, je peux repackager ma communication. Et manifestement, ça a apporté ses fruits, puisque le consommateur a confiance dans la grande distribution. Et ça, c'est, je vais dire, une mauvaise nouvelle. Parce qu'à partir du moment où la confiance s'installe, la confiance, c'est dans le marketing relationnel, ce qu'on appelle la colle. C'est la colle qui va faire que vous allez rester attaché à un producteur, une enseigne, une marque, etc. Et quand la colle est là, bien, le lien est plus dur. Et puis, l'entreprise peut, à peu de choses près, faire ce qu'elle veut. Et donc, ça, c'est vraiment un mauvais signe. Tant qu'il n'y aura pas des organismes qui valideront les messages qui diront « Ah, vous dites que vous faites du local, eh bien, nous allons voir. Ah, vous dites que vous réduisez l'empreinte carbone, eh bien, nous allons voir. » Qui vous donne des labels, un peu comme les normes ISO, hein, sur la qualité ou sur le respect du personnel, eh bien, tant qu'il n'y aura pas ça, les distributeurs pourront dire ce qu'ils veulent. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Il y a toujours une part de vrai. Hein. Ils ne sont pas fous, hein, il faut respecter le client. Il y a toujours une part de vrai. C'est quoi le vrai du vrai, quoi.
Monsieur Daff, par rapport à ça, peut-être deux questions. On entend qu'il y a une forme de retour à la normale. On entend aussi qu'effectivement, les coopératives doivent peut-être plus expliquer ce qu'elles font. Quand vous entendez ça, est-ce que vous dites que votre tâche est compliquée, finalement, et comment est-ce que vous l'abordez? Et alors, peut-être deuxième question, comment est-ce que, finalement, les coopératives vivent ou ont vécu peut-être cette forme de retour à la normale, et est-ce que ça en menace certaines dans leur existence, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, d'un point de vue économique?
Oui, donc, d'abord, retour à la normale, enfin, je ne sais pas. En tout cas, chez Paysans Artisans, on a fait 100% de croissance en 2020, et on a continué la croissance... pas 100% l'année suivante, mais de 10-15% les années suivantes. Il y a des coopératives qui sont plus en difficulté, mais je pense aussi parce que leur modèle n'est pas encore suffisamment assis. Tout ce mouvement circuit court, ce mouvement citoyen, aussi de reprise de maîtrise sur la distribution, est nouveau. Et donc là, il y a des modèles qui doivent encore se confirmer, qui doivent encore se stabiliser. Et donc, c'est les deux. Il y a eu une euphorie, évidemment, en 2020. Et puis, il a fallu retomber sur ses pattes. Mais ce n'est pas parce que la vague retombe. Oui, il y a eu une vague plus importante. Il y a eu un effet spécial en 2020. Mais on redémarre à un niveau plus élevé. Mais en même temps, les coopératives sont toujours en train de stabiliser leur modèle. Alors, sur la communication... Vous nous dites, de fait, deux choses. La communication, il faut une seule idée, simple, bon. Deuxième chose, le consommateur ne change pas vite. Hein? Alors, la communication avec une idée simple, ce n'est pas de la communication. Hein? Donc, c'est du lavage de cerveau, voilà. Et ils ont de la puissance de feu pour faire ça. Tout notre travail, c'est d'amener de la complexité, comme on l'avait dit, de pouvoir expliquer. Et on le fait en ancrant notre travail sur un territoire, au niveau de la distribution, avec des relations vraiment étroites avec nos consommateurs, avec les producteurs, les mises en connexion de ces consommateurs et de ces producteurs, pour essayer de produire de l'intelligence et de produire une envie d'intelligence, une envie de comprendre. Il me semble que la colle que vous parliez tantôt d'adhésion du consommateur à la grande distribution, elle ne tient pas si fort que ça. Alors, elle est toujours là, ils matraquent fort, donc ils envoient de la colle, boum, boum, boum. Mais je ne suis pas sûr que ça tienne si fort que ça et qu'il suffit qu'il y ait un petit vent pour que ça puisse se décoller. Moi, je fais ce pari-là. Je vois que, par exemple, nos grands amis de Deleuze ont fait quand même des choses assez cyniques dernièrement. J'ai parlé dernièrement avec un de leurs producteurs. Ils sont quand même avec des diminutions de débit significatives. Même les magasins ont réouvert. Hein. Mais lui, il me parlait de 30%. C'est peut-être pas aussi important que ça, mais c'est significatif. Et donc, les gens se disent, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer avec ces gens-là qui traitent leur personnel comme ça, qui jouent avec cynisme et qui distribuent des dividendes en même temps. Donc, je ne suis pas sûr que la colle tienne bien, aussi bien. Maintenant, on reste, c'est vrai, au niveau de notre secteur alternatif, très minoritaire. On gagne un petit à petit les choses. Peut-être qu'on gagne un peu plus vite sur le plan des idées. Et donc, c'est du décolletou hein, qu'on balance. Donc, et qu'à un moment donné, la colle va tomber. Alors, il y a un autre élément qui est important, c'est il y a la façon dont l'alimentation est produite. Est-ce qu'on la produit de façon plus qualitative? Est-ce qu'on sait d'où c'est fait, où c'est fait, comment c'est fait, qu'on comprend les métiers, etc. Mais aussi la façon dont les choses sont distribuées. Nous, chez Paysans Artisans, on a fait le pari de créer, et c'est vrai dans toute notre coopérative, de petits magasins, de quartiers, de villages, où on recrée du lien social, où on se parle, où on explique. Et donc ça, c'est important aussi, et ça fait partie de la communication. Et donc on est revenu à remettre de l'humanité et remettre de la convivialité dans des quartiers, dans des villages. Moi, je pense que la logique de concentration de la grande distribution arrive en bout de piste. Là. Ils sont attaqués aux deux bouts, d'une part par des gens qui disent que l'enjeu, c'est peut-être pas le profit et le dividende, mais que l'enjeu, c'est de recréer société. Ça, c'est nous. Hein, pour la gratter, on pèse pas grand-chose, mais on est là, et sur le plan des idées, on progresse. Et puis, ils sont attaqués par plus méchants qu'eux. Donc, par les Amazon, par les HelloFresh, par des gens qui font encore des choses pires, à mon avis, et qui vont encore plus loin dans le contrôle du consommateur. Mmh. Et là, ils sont à un tournant qu'ils ne savent pas trop prendre et ils sont fort agités pour le moment. Et donc, on va voir comment tout ça se joue. Moi, je fais le pari que c'est quand même la fin d'un cycle, là, de ce truc qui a démarré début du 20e, de supermarchés, et puis qui ont grandi, et qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce que ça va être retour à plus de société, plus de sens, plus d'intelligence, ou encore un système plus contrôlé et plus concentré? On va voir. Mmh. Mais je pense qu'il y a match. Je pense que les consommateurs, les citoyens, qui sont des citoyens, doivent aujourd'hui prendre ce chemin-là et se rendre compte que s'ils ne veulent pas être complètement manipulés, il faut qu'ils reprennent le contrôle. Et reprendre le contrôle, ben, c'est travailler avec des producteurs qu'ils connaissent sur des lieux où ils peuvent agir, où ils peuvent participer à des assemblées générales, à des conseils d'administration. Alors c'est peut-être du rêve, oui. Et donc quand on fait notre boulot dans nos coopératives, on ne fait pas que du business. On en fait aussi, il faut équilibrer notre bilan. Mais on fait de la politique, on essaye de changer la société.
Oui,
on essaie de changer la façon dont on produit, dont on vit ensemble, dont on distribue, dont on consomme. Voilà.
Alors, Monsieur Zida, vous vouliez intervenir. Juste, peut-être que ça rejoint ce que vous vouliez dire, et si ce n'est pas le cas, vous pourrez aussi évoquer ce que vous vouliez dire. Juste, c'est qu'on a évoqué la situation, entre guillemets, des coopératives. Monsieur Dave, ici, dit que pour lui, finalement, peut-être que le modèle de la grande distribution est à un tournant. Enfin, en tout cas, on arrive au bout de quelque chose. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je ne sais pas si c'est là-dessus que vous voulez réagir ou bien...
Ouais, voilà. Oui, exactement.
Ouais.
Mais dans le domaine de l'économie, on assiste toujours à des phénomènes qui sont cycliques.
Si vous prenez, par exemple, la motivation du personnel, eh bien, il y a 200 ans, le seul outil qui était utilisé pour motiver le personnel, c'était des primes à la productivité. Hein, on revient au taylorisme, vous faites exactement ce que je dis et je vous donnerai 1% ou 2% en plus. On a vu où ça nous a mené. Donc le taylorisme a mené à annihiler la condition humaine, à annihiler finalement ce qu'était l'homme avec un grand H dans un milieu industriel. On le considérait comme une machine. Et encore, il y a quelques années, on a découvert, pour votre information, on a découvert qu'un entrepreneur aux États-Unis, dans un village perdu, qui avait deux chaînes de production, mettait des langes à ses employés pour que ses employés puissent se sustenter toujours dans la ligne de production et sans perdre du temps pour aller aux toilettes. Il a fallu qu'il y ait une personne qui ait le cran de l'avouer et de le dire à la presse. Cette personne s'est fait licencier et puis, bien entendu, le gouvernement américain s'est saisi de l'affaire. Et donc, on arrive, tout est cyclique. Et on arrive, je pense, et ça, je suis d'accord, au bout du bout, parce que c'est vrai. On a trouvé encore plus fou sur la recherche d'efficience. C'est-à-dire, comment puis-je atteindre tel objectif en y mettant le moins de moyens possible. Et donc, aujourd'hui, des modèles en ligne, par exemple, réussissent parce qu'ils pressent leurs employés et que leurs employés sont dans des entrepôts. C'est envoyé à partir de l'Irlande, par exemple. On va moins regarder les conditions sociales et on va vous envoyer des colis, peut-être pas dans l'alimentaire, hein, mais dans d'autres domaines. Et la grande distribution, ça, ne sait pas faire face à ça. Donc, on a trouvé plus fou que ceux que l'on considère comme fous. Donc, pour moi, on va dans le mur. Ça, c'est une évidence. Et on peut le voir. J'ai étudié dans un autre cadre l'industrie viticole australienne et elle a eu un boom en 10 années incroyable. Elle a récupéré certains pays. Elle avait la quatrième place mondiale en termes d'exportation. Comment ? Tout simplement parce que les petits producteurs, on en compte à peu près 1996, donc petits producteurs comme on peut les trouver chez nous en Australie, et puis on trouve 4 grands producteurs, hein, Pernod Ricard, etc., qui eux ont 90% de la production, eh bien ils se sont associés. Ils ont acheté les machines ensemble, ils ont récolté ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont vinifié ensemble, et en fait ça a fortement diminué les coûts et ils ont pu exporter ensemble, etc. Donc le modèle de la coopérative est un modèle d'avenir et pourtant, on parle de coopérative, ça existe depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps.
Je veux dire même plus.
Mais c'est un modèle d'avenir parce que même en termes de management, avoir des gens qui travaillent dans l'entreprise et qui sont à la direction de l'entreprise, c'est le modèle de demain. Si on veut vraiment de la durabilité, il faut que les gens soient à tous les niveaux. Et donc, c'est un modèle auquel je crois. Mais en tant que professeur d'université, je dois être critique par rapport à ça. Je dois faire la différence entre mon opinion personnelle, qui est celle-là, et puis ce que j'observe. On tire à boulet rouge sur la grande distribution, c'est vrai. Mais la grande distribution, c'est 200 000 personnes en direct, 400 000 avec le gros. Et donc, si demain, cette grande distribution disparaît, on a d'autres graves problèmes de ménages qui vont se retrouver sans revenus. Et donc, il faut leur retrouver une autre occupation, en quelque sorte. Et est-ce que, comment vais-je dire, des petites entreprises peuvent absorber tout cet emploi? C'est le pari américain. 99% des entreprises sont petites aux États-Unis. Il n'y a que quelques grosses entreprises. Quand elles sont grosses. Hein. Ça, c'est certain. Mais la plupart des entreprises sont petites, sont des PME. Et est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau de durabilité dans l'emploi, qui est aussi une question importante. Parce que les salaires vous permettent d'éduquer vos enfants, permettent d'avoir des soins de santé de bonne qualité, de payer des impôts, hein, et qui se retrouvent ensuite dans tous ces services publics. C'est pas une question anodine. Donc, on peut très certainement critiquer la grande distribution, mais faisons attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on pourrait alors avoir d'autres problèmes. Mais il y a des solutions à tout.
Et elles seraient quoi? Peut-être que je vous demande, je simplifie la question de manière extrême, mais finalement...
En un mot, éducation, et je pense que Paysan Artisan le fait, c'est que c'est très difficile. Il faut éduquer. Il faut que le consommateur comprenne qu'il n'est pas tout simplement le dernier maillon de la chaîne, mais il pourrait être le premier maillon de la chaîne. C'est ce qu'on explique à nos étudiants. Quand on dit le consommateur est roi, c'est pas donner au consommateur ce qu'il attend, c'est vraiment le consommateur, tout part de lui. Et c'est par là qu'il faut commencer. Donc il faut l'éduquer, il faut lui expliquer. Le jour où il y aura une crise, où les gens mourront parce que Ils ont absorbé trop de tel ou tel produit que l'industrie qui hyper transforme ces produits utilise. Bien, le jour où les gens commenceront à mourir, hein, le jour où la société se rendra compte que certains problèmes cardiovasculaires viennent de là et qu'on aura établi les liens clairs, je ne veux pas dire qu'il sera trop tard. Et je ne suis pas défaitiste, hein, ni catastrophiste, mais là, ils se rendront compte que finalement, avoir une mauvaise alimentation, c'est grave pour eux. Aujourd'hui, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que les gens s'en rendent compte. Vraiment. Je veux dire, la majorité des gens, hein, y a une partie des gens qui sont très sensibles à ça. Faut-il en arriver là ? J'espère que non. Et donc l'éducation, pour moi, est le seul moyen de faire changer la société.
Monsieur Daff, tu peux conclure ?
Oui, enfin, éducation, moi je dis politisation, mobilisation. Et je pense que pour y arriver, et c'est ce qu'on essaye de faire, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Donc il faut montrer qu'une alternative est possible, il faut la construire, il faut la faire grandir. Et alors là, le discours, je dirais, alternatif ou politique, commence à être crédible. Parce qu'on a montré qu'il y a, à petite échelle, des choses qui sont en train de se faire. Donc ça a été toujours notre choix depuis le début. On avance sur ces deux jambes, on fait de l'économique, on fait du politique en même temps. Alors sur l'emploi... Moi, je dis au niveau de la distribution, chez Paysans Artisans, donc on a 45 salariés. Ramené au chiffre d'affaires, on est beaucoup plus pourvoyeur d'emplois que la grande distribution. Et en production, c'est la même chose. On a des petits producteurs, maraîchers par exemple, qui travaillent sur 2 hectares, qui ont un magasin. Ils ont 6-7 employés sur 2 hectares. L'industrie a beaucoup moins, la production industrielle agricole a beaucoup moins de salariés. Là, on a une autre ferme de 60 hectares. Ils ont 25 salariés parce qu'ils ont une boucherie, ils ont un magasin, ils font de la transfo, ils font du fromage, etc. Et donc, là, on se retrouve avec des unités de production qui sont beaucoup plus pourvoyeuses de travail. Et en plus, du travail qui fait plaisir, du travail qui est digne. Où les gens sont fiers de leur taf en fin de journée. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps, mais flûte, la vie est courte, il faut qu'on se dise, ça, c'est moi qui l'ai créé, ça, c'est moi qui l'ai fait, je sais le faire, j'ai 10 ans de métier derrière moi, j'ai pu le faire. Ça, c'est du travail. Le travail à la chaîne, le travail avec un garçon dans la grande distribution où on a l'ordinateur même qui te pionne pour voir si tu vas assez vite à ta caisse, etc. C'est pas du travail, ça. C'est du néo-esclavagisme. C'est pas ces métiers-là qu'on a envie. Il faut terminer avec ces métiers-là. Donc voilà. Donc ça, pour nous, c'est un vrai enjeu. Alors, ça va prendre du temps, mais en même temps, la colle ne tient pas si fort que ça.
Écoutez, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était donné. Peut-être, moi, je ne sais pas si l'un et l'autre, vous avez peut-être quelque chose que vous voudriez ajouter, qu'on n'aurait pas abordé. Vous vous dites, tiens, ça, c'est important. Un enjeu, une réflexion, une conclusion, je ne sais pas. Monsieur Zida,
peut-être. Je pense qu'il faut vraiment pousser la réflexion. Il y a des spécialistes pour ça. Hein, pousser la réflexion le plus loin possible. Si vous prenez le ratio, par exemple, superficie cultivable par personne qui va, par exemple, travailler chez les petits producteurs ou chez paysans artisans, et puis vous utilisez ce ratio pour savoir de combien de terres devrais-je disposer pour caser 400 000 personnes qui sont dans la grande distribution, on se rend compte que la Belgique est trop petite. Et donc, toute la question, par exemple, et ça, on n'en a pas parlé, mais à part, vous en avez un peu parlé tout à l'heure en disant que le local, finalement, ce mot-là, vous ne l'utilisiez pas. Eh bien, c'est quoi que l'on doit privilégier ? Est-ce qu'on doit privilégier vraiment le local ou est-ce qu'on doit privilégier le circuit court ? Est-ce qu'on peut faire autant être fier de faire venir des huîtres de Bretagne ou de Normandie alors que chez nous, on n'en a pas ? Est-ce que ça fait partie de la responsabilité des enseignes de faire cela ? Ou alors, on doit complètement bannir les huîtres parce qu'elles ne sont pas produites dans un rayon de 40 km. Et donc, le modèle que l'on veut, personnellement, je trouve que le circuit court est peut-être la panacée. Et donc, il faudrait réfléchir, pousser notre réflexion jusqu'à qu'est-ce que l'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme société qui fournisse une alimentation qui soit saine, mais qui soit respectueuse et de l'environnement, et de l'aspect social, c'est-à-dire des personnes. Mmh. Et là, on aura gagné. Et la grande distribution n'est pas dans ce trip-là, puisque la grande distribution, ne vise que l'efficience économique. À juste titre, parce que tout leur actionnariat c'est ce qu'ils souhaitent. Mmh. Ils souhaitent avoir des dividendes. Pour pouvoir donner des dividendes, vous devez faire du bénéfice. Mmh. Et pour faire du bénéfice, eh bien, il faut faire du volume et des marges. Et pour faire des marges, il faut avoir des prix faibles, étant donné que le prix est relativement fixé. Et on a prouvé que le modèle n'est pas tenable.
Mmh. Merci beaucoup, Monsieur Dave, si vous avez une conclusion ou une réflexion.
Non, ben on va voir un petit peu. L'histoire est en train, à mon avis, est un peu chaotique. On va voir comment les choses basculent. J'ai un peu de crainte que ce soit chahuté. Mais c'est maintenant qu'il faut construire une alternative. Même si elle reste minoritaire, quand les choses vont s'écraser, il faudra qu'il y ait des germes pour quelque chose de nouveau. Et on est en train de faire ça. Et donc, je dis vraiment consommateur, aux citoyens, plus qu'aux consommateurs. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. Demain, hier aussi, mais maintenant, certainement.
Ok, très bien. Merci à tous les deux. Et puis,
à
bientôt. Alimentation, la guerre du local. Un débat proposé par Alter Echo, une publication de l'agence Alter, en collaboration avec Bruxelles nous appartient et avec le soutien de la Loterie nationale.